Cette simulation de tennis est vraiment dingue. Graphiquement, c'est fou, on a l'impression de voir voler la terre battue. S'enthousiasmait Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, lorsqu'il découvrait Pong en 1972. Oh, bonjour Alexis Blanchet.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Alexis, vous êtes maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne Nouvelle, co-auteur de cet ouvrage splendide, Une histoire du jeu vidéo en France aux éditions Pix & Love. Et évidemment, vous êtes un grand amateur de jeux d'arcade. Vous y jouez ?
Ah oui, 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 moi j'y ai joué quand j'étais jeune, et puis aujourd'hui on a des possibilités d'y jouer par des formes d'émulation, par des rééditions de jeux. Il y a tout un patrimoine qui est exploité et qui permet de découvrir ou de faire découvrir aussi, parce que peut-être comme vous, j'ai des enfants qui aussi découvrent ces jeux-là et qui les apprécient.
Alexis, comme vous m'êtes déjà sympathique, j'ai envie de vous faire un cadeau d'entrée de jeu. Ce cadeau, c'est une musique. Ah. Est-ce que vous pouvez bien expliquer aux enfants ce qu'on entend là ? Une Testarossa qui file dans le soleil couchant, des pixels énormes ?
Oui, c'est un jeu de 1986 de Sega qui s'appelle Outrun. Et c'est un souvenir d'enfance. Florence Gimalac, votre chargée de programme, m'a demandé quel jeu d'arcade je voulais mettre en avant. Et j'ai pensé à celui-là parce qu'il m'a accompagné, peut-être moins d'ailleurs sur arcade que sur des portages sur console de jeux vidéo.
Mega Drive.
Des liens, voilà. C'était un jeu Mega Drive. Je vois qu'on est de la même génération, Mathieu.
Tout à fait. C'était une Testarossa ?
C'était une Ferrari, en tout cas.
C'était un semblant de Ferrari, mais l'accord commercial n'était pas signé entre Sega.
Oui, non, c'est sûr. Il n'y avait pas de logo.
Testarossa, c'est une voiture.
C'est une modèle de Ferrari. D'accord. La voiture ressemblait vaguement à ça, on la voyait que de dos, forcément.
Il y a une caractéristique des côtés un peu profilé.
Ah oui, profilé, on peut le dire, effectivement. Ça. Et comme ça, on fonçait dans les...
Je ne connais pas du tout.
Ah bah, c'est le goût du road trip, en fait. Ce jeu, c'est le road trip. Donc un enfant de 10 ans qui se retrouve aux manettes d'une voiture de cette forme-là, la vitesse, le plaisir de la route, le plaisir du paysage, c'est vraiment tout ça qu'il y a dans Outrun.
C'est pour ça que j'adore aujourd'hui les road trips.
Ouais.
Alors, entre vous et
les
moi...
les grosses voitures.
Entre vous et moi, ça match pas mal, Alexis. On va pouvoir lancer cette émission, un Zoom Zoom Back spécial 1972, année qui a vu la naissance dans des toutes première borne d'arcade, mais pas que. Zoom Zoom Back, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre Zoom Zoom Zen du vendredi, Zoom Zoom Back. On arrête de scanner l'actu et on ouvre l'album souvenir. Aujourd'hui, direction 1972, année importante, puisque cette année-là, lors du bal de clôture de la foire au rognon de Beuvron-sur-Auge, les parents de Quentin Luy dansaient leur premier slow sur... Au même moment, plus au sud, dans le secret d'un presbytère de Lourdes, le père Chibrard commettait l'irréparable, cédant aux sirènes perverses du stupre avec une jeune femme qui deviendrait la mère de Pierre Courade, qui passera les 9 mois suivants à écouter Mike Brandt. Ah ça, il était bien allé vers elle. 1972, c'était sa prière, mais c'était aussi... Au sommet de son art et bien plus moderne que Isaac Hayes qui la même année sortait. Ils avaient vraiment un temps de retard, ces ricains. 1972 en musique, mais aussi au cinéma, en politique et bien sûr en jeux vidéo. Oh, bravo Cyril, quel service. Alexis Blanchet, ensemble, on va évoquer la naissance des bornes d'arcade. Juste le temps de vous présenter ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à Outrun sur Mega Drive. Manon Mariani, chaque vendredi, vous nous faites découvrir une première fois qui a marqué l'histoire.
Un jeu télévisé français se lançait pour la première fois en 1972. Des chiffres et des lettres présentés par Patrice Laffont, tout jeune. Le jeu s'est terminé cette année, mais il a marqué évidemment plusieurs générations. On parlera consonnes, voyelles et calculs dans cette première fois emblématique en fin d'émission.
Tout ce que vous aimez.
Tout ce que j'adore.
Vous vous livrerez un calcul ? On pourra faire un test ? test.
Oui, allez-y.
Oui, avec, avec le gobelet de Laurence Côté, alors.
Oui, exactement. Je vais le prendre.
Face à vous, Alexis, il fait 10 degrés. Un froid humide tenace règne sur Paris. Les conditions idéales pour délaisser l'exercice du micro-trottoir et se réchauffer dans ce cocon douillet qu'on appelle l'INA. Chaque vendredi, Quentin aime s'y reposer en dégustant un latte macchiato pendant que les salariés de l'INA lui préparent une sélection d'archives.
C'est un travail plutôt numérique, hein. Mais j'aime l'idée que vous vous faites de mes journées. Jamais très éloigné des cafés, finalement. Un dimanche sanglant en Irlande du Nord, Le Pen fonde le Front National et la prise d'otage des JO de Munich. Accrochez-vous, c'est une année chargée, 72.
1972, complètement aux archives, mais aussi 1972 au cinéma, avec cette encyclopédie vivante qu'est Thomas Croisière, qui nous rejoindra tout à l'heure, sans oublier l'œil taquin de Charles Nouveau en fin d'émission. Mais pour le moment, je me tourne vers vous, Alexis Blanchet, parce qu'on voulait inscrire cette émission d'abord en 1971, l'année de l'invention des jeux d'arcade, mais en préparant... vous nous avez signalé que 72 était une année plus judicieuse parce qu'elle marque véritablement l'émergence du phénomène avec l'arrivée de Pong, on en a parlé. Pourquoi ce jeu a vraiment révolutionné l'univers de l'arcade ?
Alors, en tant qu'historien, la révolution, c'est quelque chose qui n'arrive pas très très souvent. En fait, c'est un jeu qui arrive en... Les gens n'y font pas beaucoup attention, d'une certaine façon, et le milieu professionnel qui accueille cette borne Pong est dans un premier temps très tiède vis-à-vis de cette machine. Eh oui, ça peut paraître étonnant. On a des sources en historien, parfois on va à l'INA comme Quentin, parfois on va à la Bibliothèque Nationale, et on a des revues professionnelles qu'on appelle en France des revues d'automatique de divertissement. J'aime beaucoup ce nom. C'est le secteur qui correspond en France au secteur de l'amusement, des machines de jeu, des flippers, des jukebox dans lesquels on joue Mike Brandt, par exemple, à l'époque. Et ce secteur, c'est un secteur qui est drivé par la nouveauté. Il faut régulièrement proposer des nouvelles machines parce que le public se lasse. Un flipper, ça marche bien un temps, et puis à un moment, on s'embête. Donc, Pong arrive en 1971, et j'avais été vraiment admiratif que l'équipe de Zoom Zoom Zen choisisse cette date, parce que historiquement, c'est plus juste. Le début des jeux d'arcade, au sens jeux vidéo d'arcade, ce serait 1971. Parce qu'il y a deux tentatives cette année-là d'utiliser un écran à tube cathodique, d'utiliser un montage électronique pour faire jouer les gens sur un écran.
L'interaction, en fait, c'est le début de l'interaction.
De l'interaction en temps réel avec une image qui s'affiche en temps réel et évolue en temps réel sur un écran. En 1971, on essaye d'exploiter d'un point de vue marchand cette invention. Ces deux inventions, la première s'appelle Galaxy Game, la deuxième s'appelle Computer Space, sont toutes les deux des adaptations d'un jeu de l'informatique ludique universitaire. Là, on remonte dans les années 60, 1962, Space War, ou MIT, aux États-Unis. Et en 1971, on a deux tentatives d'exploiter commercialement qui ne vont pas marcher. Les formules qui sont proposées sont trop complexes, et le jeu ne va pas rencontrer le public des machines de jeu, qui est un public issu des classes ouvrières. C'est les working class qui jouent à ces jeux. Il faut vous dire que ces machines, c'est des machines qui produisent de l'animation dans les lieux de consommation. Si on met un flipper, si on met une machine de jeu dans un bar, c'est pour que le public y reste, c'est pour que le public... joue et en jouant consomme, achète son paquet de tabac ou achète son demi.
Vous avez parlé du MIT dans les années 60, ça veut dire que le jeu vidéo d'arcade, il naît dans un milieu plutôt extrêmement élitiste ?
Le jeu vidéo d'arcade, c'est une tentative d'exploiter commercialement des inventions qui relèvent d'une économie non marchande, parce que ça existe l'économie non marchande, hein. Il ne faut pas seulement le marché pour qu'il y ait de l'innovation. Et dans les années 60, l'informatique ludique universitaire, c'est un lieu où on va exploiter, tenter de comprendre comment fonctionne l'ordinateur et on va passer par la forme du jeu. C'est comme ça qu'on a des jeux qui arrivent. Il n'y a personne dans l'histoire des jeux vidéo qui se lève un matin en se disant « je vais inventer le jeu vidéo ». C'est une fable, ça n'existe pas. Par contre, il y a des gens qui sont face à un nouvel objet, l'ordinateur, et qui vont dire « comment je programme cette affaire-là ? Tiens, si je passais par le jeu, parce que le jeu dans son sens « game », vous savez que les anglo-saxons, ils ont deux termes, « game » et « play » pour désigner le jeu. Le game, c'est la structure. Et une structure, ça se modélise.
Il n'y avait pas que Mike Brandt qui chantait en 1972, Véronique Sanson aussi. Voici « Amoureuse sur Inter ».
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Sa tête entre mes mains. face me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin.
Zoom zoom back direction 1972 cet après-midi, l'émergence des jeux d'arcade avec notre invité Alexis Blanchet, maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne Nouvelle et co-auteur d'une histoire du jeu vidéo en France aux éditions Pix & Love, une bonne idée de cadeau de Noël par exemple. Alexis, c'est donc Atari qui popularise les jeux d'arcade avec Pong. C'est quoi Atari? Parce qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes d'entre nous, ils ne savent même plus ce que c'est Atari.
Oui, c'est une marque qui a un petit peu disparu du paysage. À l'origine, ce sont des ingénieurs, Nolan Bushnell, Ted Dabney, qui vont fonder cette structure avec dans l'idée de produire de l'ingénierie pour vendre au secteur de l'amusement. Leur idée, c'est d'essayer de développer cette forme. Pong, qu'on a évoqué, c'est un jeu qui est lancé chez Atari à l'été 1972. Il y a une forme jouable qui est développée par Al Alcorn à l'automne 1972. Et au départ, c'est un jeu qui n'est pas censé être exploité. Atari et Nolan Bushnell veut simplement faire travailler Al Alcorn sur cet objet. Mmh. Seulement, la formule, elle est extrêmement accrocheuse. C'est pour ça que Cyril Lacarrière adore ce jeu-là.
Il faut rappeler ce que c'est.
Mais c'est quoi les règles?
Oui, Pong, deux raquettes, un écran noir, un projectile d'une certaine façon, que s'échangent deux raquettes. Et Al Alcorn a cette idée très intéressante. Il va contraindre le mouvement de la raquette de haut vers le bas et il va permettre à la raquette de rebondir sur la surface supérieure et inférieure de l'écran avec des angles qui sont fermés au centre de la raquette et plus ouverts si on va vers l'extérieur de la raquette. Ça donne de la variété et à ceci, Al Alcorn ajoute de l'accélération. Le motif de Pong, c'est l'accélération. Plus l'échange se prolonge, plus on risque de perdre. Un des deux joueurs risque de perdre la partie. C'est un jeu qui est programmé pour faire perdre les joueurs. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le modèle économique des machines de jeu. Il ne faut pas que les gens y restent des heures devant ces machines. Il faut qu'ils mettent des pièces de 25 cents régulièrement pour qu'elle soit rentable, cette machine.
Et qui y joue? Qui y joue? C'est des garçons, les garçons, les filles, tout le monde
Eh bien, quand la formule est lancée sur le marché, à partir de 1973, elle va commencer à connaître le succès, Atari a mal protégé son jeu. Il y a un brevet qui a mal été déposé par les avocats d'Atari. Et donc, toute l'industrie américaine de l'amusement, et d'ailleurs l'industrie de l'automatique en France également, va commencer à faire des copies de Pong. Qui y joue? Une génération qui a bénéficié des progrès en termes d'éducation après-guerre. Le système éducatif progresse, les gens sont mieux formés et la jeunesse des années 70, elle a des envies d'objets sophistiqués pour se divertir. Et finalement, jouer avec l'électronique, jouer avec un écran, ça répond à ce besoin de sophistication. En même temps que la formule, c'est assez étonnant, Pong est souvent présenté dans des expositions contemporaines de jeux vidéo et c'est très étonnant de voir des enfants de 8, 10, 12 ans encore accrochés sur un jeu qui a plus de 50 ans aujourd'hui.
En France, c'est dans des bars, c'est dans des salles d'arcade déjà ou pas?
Alors, le bar, le café-bar, c'est le lieu où on exploite ces machines en France, contrairement aux États-Unis ou au Japon, qui va rejoindre ce secteur-là, où on a des salles qui sont dédiées au jeu. On a quelques salles qui existent en France, on appelle ça, il y a ce beau terme de kermesse qu'on utilise quand on réunit comme ça plusieurs machines de jeu, mais la tradition en France, c'est plutôt le bar-tabac. On a des gens dans l'automatique de divertissement, ça s'appelle des exploitants placiers, ils achètent ces machines et ils les placent dans des lieux. Et tout leur rôle, c'est d'assurer la maintenance de ces machines et de faire tourner ces machines dans différents lieux pour assurer qu'elles soient rentables. Le Pong va poser un problème et c'est pour ça que le secteur est très froid au départ vis-à-vis de cette machine, parce que les machines d'automatique de divertissement et d'amusement, c'est des machines électromécaniques au départ. Il y a de la mécanique, il y a un petit peu d'électronique. Là, c'est des machines électroniques qui arrivent et en fait, quand on lit la presse spécialisée professionnelle de l'époque, ils sont tous catastrophés parce qu'ils savent pas comment gérer et comment entretenir ces machines. Il va leur falloir plusieurs années pour former leurs techniciens et assurer un parc qui va grandissant parce que le public est là.
Ça coûtait combien une borne d'arcade à l'époque ?
Atari fabriquait sa machine pour un coût de $280 et la vendait $900. Sur un coût en France, on devait être probablement sur un coût entre 3 000 à 4 000 francs la machine, qu'il faut d'abord amortir avant qu'elle ne gère des bénéfices.
Tiens, aujourd'hui, pour changer, je vais prendre un pumpkin caramel macchiato. Je vous attends dans le Chesterfield, comme d'habitude, vous me mettez un SMS quand c'est prêt. Ainsi parlait Quentin, lui, en arrivant aux archives de l'INA hier. Ainsi se fabrique quasiment tout seul, finalement, le complètement aux archives du vendredi.
Le 30 janvier 1972, un dimanche sanglant de l'histoire nord-irlandaise.
Mesdames et messieurs, bonjour. Irlande du Nord. 13 morts par balle à Londonderry hier après-midi. Les parachutistes ont tiré sur deux jeunes manifestants catholiques. Nous allons avoir dans quelques minutes une liaison avec la BBC. On nous annonce de très dures images.
Jean Lanzi et son journal Télémidi diffusent le conflit entre protestants et catholiques qui tourne au massacre lors d'une marche pacifique à Derry. Les soldats britanniques tuent 14 personnes, c'est le Bloody Sunday. 11 ans plus tard, U2 le chante avec ce riff de guitare inoubliable. Oui, Cyril Lacarrière m'a obligé à mettre cet extrait. Mais en 72, la contraception et surtout la pilule font débat dans la société française. J'ai retrouvé ce micro-trottoir de Télépremière.
Voici ce que certaines femmes pensent de la pilule.
Est-ce que vous prenez la pilule ?
Oh non.
Est-ce que vous auriez peur de prendre la pilule ?
Oh oui. Il faut voir les naissances qui va venir après. C'est oui, ça qu'il faut voir.
Vous croyez que c'est dangereux ?
Bah, oui, pour moi, normal. Oui. Ce n'est pas normal. Moi, je dis que c'est l'homme qui doit faire attention, puis c'est tout.
En 72, seulement 6% des femmes en France prennent la pilule, mais c'est une révolution. Et ça résonne avec le MLF qui manifeste au mois de juin 72.
Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Devant-nous femmes esclaves, et puis on entendra.
Cela se passait le dimanche de la fête des mères à Paris, au rond-point des Champs-Élysées. Elles étaient habillées, par manière de dérision, en petites filles, chaussettes courtes, rubans dans les cheveux. Le point du septième jour, libérer la femme, mais comment ?
Mais comment ? Grande question à l'époque, 1972, cette année-là, Jean-Marie Le Pen crée le Front National.
Si je vous dis que nous sommes la gauche, vous ne me croirez pas.
En clair, vous êtes la droite.
Nous sommes la droite, oui. Nous sommes la droite populaire, nous sommes la droite sociale, qui ne sépare pas l'amour de la patrie de l'amour de son peuple.
Il apparaît à la télé avec un bandeau de pirate sur l'œil gauche. Écoutez ce qu'il répond quand le journaliste dit que son parti est d'extrême droite.
À partir du moment, si vous voulez, où je vous fais l'aveu très volontiers d'être la droite, je préfère que vous ne disiez pas l'extrême droite, parce qu'en effet, il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extrême droite, et qui d'ailleurs en sont fiers, et il y a aussi des gens de droite. Par conséquent, non, je ne venais aucun complexe.
Drôle d'observer qu'il n'assumait pas déjà l'extrême droite. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Le 5 septembre 1972, l'horreur au JO.
Mesdames et messieurs, bonjour. Décidément, le terrorisme ne respecte plus rien. Pendant les Jeux Olympiques à Munich, des athlètes israéliens pris en otage par des Palestiniens ont été massacrés.
Les membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir, qui demandait la libération de militants palestiniens détenus en Israël et en Allemagne, s'infiltrent armés dans le village olympique, prennent en otage et tuent 11 athlètes ainsi qu'un policier allemand. Le monde est sidéré. Sans transition, en Espagne, en 1972, Cristobal se fait la malle. Le monde de la couture est en deuil, Balenciaga meurt à 77 ans, son ami Pierre Balmain lui rend hommage.
On peut dire que Balenciaga, ce grand seigneur espagnol, cette immense figure, a pu se vanter d'être derrière la plupart des grands mouvements qui ont animé la mode de notre époque.
Retour en France, en 1972, une nouvelle obligation sur les voitures.
Automobiliste, on a encore pensé à vous et à vos porte-monnaies.
À partir du 1er juillet, en effet, le rétroviseur extérieur sera obligatoire.
C'est bien, parce que ça peut servir quand même, c'est pratique. Heureusement, l'autoradio, lui, a été inventé bien plus tôt, et en 1972, on écoute ça dans son auto. Sur la route des vacances, dans les 70s, ainsi se termine ce complètement aux archives.
Merci Quentin. Et je remarque que pour vous, chaque année, il y a toujours une actualité voiture. C'est important pour vous, j'ai l'impression.
Je pense qu'il le demande à Lina. Hein.
Ça, ça fait partie de vos requêtes pendant que vous dégustez votre caramel macchiato.
Je demande à Samia Jedi avec qui je travaille.
Et on les salue. On les salue.
Qu'on salue et qu'on remercie.
Surtout, ils travaillent et vous, vous engrangez le résultat. Alexis, l'Irlande du Nord, la prise d'otage au JO de Munich, le monde avait besoin de s'échapper dans le divertissement. Ça peut expliquer le contexte, l'éclosion des jeux d'arcade et le fait que ça ait marché finalement, que ça ait pris.
Ils apportent des nouveautés, donc on est plutôt dans une période qui correspond à la fin des Trente Glorieuses, on croit encore au progrès, on croit encore que le monde va être meilleur, et donc probablement que le caractère de nouveauté, les nouvelles images que ça propose, hein, les graphismes des jeux vidéo vont évoluer finalement très vite dans les années 70-80, noir et blanc, on l'a dit pour Pong, et puis couleur va arriver, les graphismes vont s'améliorer. Il y a un effet, puisqu'on est dans un milieu qui fonctionne sur la nouveauté, que presque tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a des évolutions techniques, il y a des évolutions visuelles et graphiques, il y a des évolutions sonores qui frappent le public et qui ménagent d'une certaine façon constamment de l'intérêt pour cet objet.
Aujourd'hui, je crois que le secteur du jeu vidéo, c'est un des plus puissants au monde, les plus gros chiffres d'affaires sont là. Je crois que l'un des biens culturels les plus vendus au monde, c'est chaque année le jeu de foot FIFA, qui s'appelle plus FIFA d'ailleurs, FC quelque chose aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, ça représente quoi ce monde du jeu vidéo en général? C'est quelque chose de tout petit encore dans les années 70, au milieu des années 70?
On pourrait donner un élément d'histoire, c'est ce que devient Atari au milieu des années 70. Atari a été fondé, nous dit l'historiographie, pour quelques centaines de dollars. Et 4 ans après sa fondation, en 1976, Atari est racheté par un conglomérat du divertissement qui s'appelle Warner Communication Incorporated. C'est les studios Warner, évidemment, mais c'est aussi DC Comics, c'est aussi des franchises sportives comme les New York Cosmos où le roi Pelé joue à la fin de sa carrière. Et Atari va mettre sur la table, selon les sources, entre 28 et 35 millions de dollars pour racheter cette structure. Pendant très longtemps, dans les écoles de commerce, Atari a été présenté comme un des cas les plus magnifique de valorisation financière d'une structure avant que les GAFAM arrivent dans les années 2000. Et ça fait que cette structure, d'une certaine façon, elle va représenter pour Warner Communication Incorporated, le conglomérat dans son entier, 30% du courant d'affaires au début des années 80.
Mais c'était bien Quentin. Vu dans la société d'aller jouer aux jeux vidéo?
Ah, la perception du jeu, ça dépend des sociétés où on se trouve. Il y a un lien qui est fait assez rapidement avec le secteur du gambling, du jeu d'argent. Il se trouve que ces entreprises d'amusement aux États-Unis, elles sont dans la région de Chicago. Mais Chicago, évidemment, on sait que c'est aussi un lien avec le grand banditisme. Ce qui intéresse la région de Chicago, c'est surtout l'exploitation forestière, parce qu'il faut du bois pour faire ces machines, et l'Illinois, c'est plein de bois. La perception de ces objets, elle évolue. En France, on a toujours un rapport un peu contrarié au jeu. On sait que depuis les Lumières, le jeu, on veut bien en entendre parler, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et d'ailleurs, quand il y aura une création de jeux vidéo français dans les années 80, elle sera essentiellement ludo-éducative. Donc on retrouvera cette idée qu'il faut utiliser le jeu pour autre chose.
On parle beaucoup de Pong depuis le début de l'émission, mais il y avait aussi Space Invader, Pac-Man, c'était ça aussi les jeux d'arcade de l'époque.
Oui, les jeux que vous annoncez là, Manon, c'est des jeux qui montre que l'industrie japonaise va s'emparer de cet objet très vite. Les Japonais font d'abord des copies de Pong et puis vont développer leur propre production. Space Invaders est un jeu de 1978 qui s'engage dans un imaginaire de science-fiction et va être un phénomène, d'abord sur son territoire national, puis ensuite de manière internationale. C'est un objet qui crée une esthétique aussi, ça c'est assez intéressant, avec les contraintes qui sont celles des développeurs à l'époque. Il faut qu'en très peu de pixels, en très peu d'éléments à l'écran, on crée des figures qui soient suffisamment évocatrices pour incarner l'hostilité, le danger pour le joueur. Pac-Man de Namco en 1980 est probablement un phénomène de société. On parle de Pac-Mania aux États-Unis. La presse utilise ce terme-là. Et puis, des entreprises bien connues aujourd'hui comme Nintendo, par exemple, qui est une entreprise à l'époque quasi centenaire, hein, déjà, qui avait fait de la carte à jouer à la fin du 19e siècle, se lance dans cette veine-là et va devenir un des géants du jeu vidéo.
En 1972, les amis, Laurent Romeschko avait 9 ans. Et un jeu allait pourtant changer sa vie. Il démarrait cette année-là. Manon nous raconte cette toute première fois, juste après Hervé, moins une sur Inter.
Le ventilo tourne en rond pendant que je brasse de l'air. Le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Je ferme les yeux pour voir la mer. Elle défile sur le bord. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? Je commence à croire que j'ai peur. Je commence à croire que j'espère. Comme des échos, des destins paratonnerres, en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots? Si les sirènes chantent l'histoire, à chercher qui abonde? Si l'horizon pue l'horreur, ça retournera son pullover.
Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom Zoom Back nous entraîne en 1972 cet après-midi. Et 1972, c'était les débuts des bornes d'arcade, mais c'était surtout le futur job de Laurent Romeschko qui était créé sans qu'il n'en sache rien, puisqu'il avait donc 9 ans. Manon Mariani, vous nous racontez cette première fois.
En France, début de l'année 1972, il fait froid. Et pendant que le pays se recouvre de neige, les Français vont découvrir une nouvelle émission avant leur JT quotidien sur l'ORTF.
Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres.
La France fait connaissance avec Patrice Laffont, tout jeune, un peu stressé, qui est pour la première fois aux commandes de ce nouveau jeu télé baptisé « Des chiffres et des lettres ». Le plateau est sobre, une table avec l'animateur et les deux candidats. Tout se fait manuellement. Patrice Laffont tire les lettres à la main. Le ton est assez sérieux. On sent que c'est l'intellect qui va être important et non pas la déconne. Et pour cause. Le principe du jeu repose sur la culture des candidats et leur sens de la logique. Pour la partie lettres, ils vont composer le mot le plus long, comme un Scrabble. Pour la partie chiffre, un nombre cible est tiré au sort, puis les joueurs reçoivent 6 nombres qu'ils vont devoir utiliser dans des calculs pour s'approcher au plus près de ce nombre cible. Le tout est encadré par 2 arbitres qui vérifient les réponses, Fabien Buller, nommé Monsieur Calcul du jeu, et le journaliste Max Favalelli, qui valide ou non les mots trouvés.
Sont admis à tous les genres, masculin, féminin, singulier ou pluriel, tous les mots simples ou composés figurant dans un dictionnaire scolaire d'usage courant dans son édition la plus récente, ainsi que les verbes à l'infinitif et les parties passées accordées.
Max Favalelli était déjà bien connu des téléspectateurs car il était présent dans l'ancienne version des chiffres et des lettres intitulée « Le mot le plus long ». Son titre est assez explicite, c'était le même concept mais sans la partie chiffres. Elle a été diffusée chaque semaine entre 1964 et 1970.
Je demande le chronomètre. Top, c'est parti.
Une voyelle, une autre.
O.
Une autre.
E.
Derrière cette émission, il y a l'un des producteurs les plus en vue de la télévision de l'époque, Armand Jameau. Il produit un magazine télé quotidien, Aujourd'hui Madame, mais aussi le jeu considéré comme l'ancêtre de Questions pour un champion, l'homme du XXe siècle, ou encore l'émission de débat Les dossiers de l'écran. En 1975, il dispose de 23 heures d'émission par semaine, soit 35 volumes du volume global d'Antenne 2. Et c'est donc lui qui relance son bébé le mot le plus long, mais version des chiffres et des lettres. Et il a eu raison, car l'émission est très rapidement un succès populaire. Elle devient une référence pour les familles françaises qui jouent autour de leur téléviseur tous les soirs. À la fin de l'année 72, des chiffres et des lettres attirent environ 7 millions de téléspectateurs. Le compte est bon, console, voyelle. Ces petites phrases et ces mots deviennent cultes au fur et à mesure des années. Et puis certains candidats offrent aussi de beaux moments de télévision.
Frédéric Van Damme,
9 lettres, avec enculage au pluriel.
Enculage.
Dans les années 80-90, le format de l'émission est adapté dans plus de 16 pays dans le monde. Des tournois, des chiffres et des lettres sont même organisés en France avec les meilleurs candidats de l'émission qui s'affrontent. C'est un vrai phénomène. En 1992, des chiffres et des lettres prend un coup de jeune avec l'arrivée à sa présentation du jeune Laurent Romeshko, qui était présentateur météo à l'époque, faut le dire. Il se souvient de comment s'est passé son recrutement sur le plateau de C'est à vous.
Je ne sais pas si vous avez connu Armand Jameau avec sa gouaille. Et en sortant, Armand me dit « Rassure-moi, mon petit lapin, t'écris pas pharmacie avec un F ?» Je lui ai dit « Non, monsieur Jameau. » Il dit « Top, là, tu seras mon animateur. » Et ça s'est fait comme ça en une demi-heure.
Son arrivée marque le début d'une nouvelle ère pour l'émission, surtout que 2 ans plus tard, c'est le passage à l'informatique. Fini le chronomètre manuel et les tirages au sort papier. Tout est informatisé. Il restera l'animateur jusqu'à la fin du programme cette année, en passant d'Antenne 2 à France 2 pour se terminer sur France 3. Avant l'arrêt final, les évictions des co-animateurs phares du programme, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pratt, avaient fait polémique. Quoi qu'il en soit, des chiffres et des lettres aura marqué les esprits. En tout, ce sont 13 083 épisodes qui ont été diffusés depuis le lancement du programme, soit 52 saisons. Il est aujourd'hui le plus vieux et le plus long jeu télévisé de France, qui manque beaucoup à nos grands-parents.
Merci beaucoup Manon. Alexis Blanchet, vous êtes avec nous pour zoomer sur 72 et le début des bornes d'arcade. Il n'y a jamais eu d'adaptation des chiffres et des lettres en bornes d'arcade, et ça c'est quand même assez étonnant finalement.
Pas donc ça, parce qu'en fait, les chiffres et les lettres, c'est un jeu de lettres et c'est un jeu qui va davantage correspondre à la micro-informatique dans les années 80. Et il se trouve que Loriciel, un éditeur français, a fait une adaptation des chiffres et des lettres qu'on retrouve en 1985. Bah, c'est quelques algorithmes de tirage, une base de données, et qui permet parfaitement de jouer aux chiffres et lettres sur son ordinateur. Mais évidemment, l'arcade, c'est le rythme. L'arcade, c'est des parties courtes, c'est des parties rapides. Et finalement, d'autres supports de jeux vont amener à d'autres genres de jeux vidéo.
Et une question qu'on n'a pas posée pour l'instant, alors qu'on parle des jeux d'arcade depuis le début de cette émission, pourquoi on dit des jeux d'arcade? Ça vient d'où cette expression?
Alors en fait, on dit assez peu des jeux d'arcade dans les années 70, un terme qui arrive plutôt dans les années 80. Moi, il y a une expression que j'adore avec Guillaume Montagnon quand on a fait le bouquin Une histoire du jeu vidéo en France. On a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle en histoire un terme d'époque qui était utilisé. Mmh. Et un des termes d'époque, c'est le meuble diversifié électronique. Un jeu vidéo, le terme qui est utilisé, c'est meuble diversifié électronique, qui est un terme qui renvoie à la matérialité. C'est un milieu très commerçant, ce milieu de l'automatique de divertissement. Donc on est attaché à la machine. Et quand vous regardez les publicités pour ces jeux vidéo dans cette presse professionnelle des années 70, il y a très peu d'images des écrans de jeu. Il y a des images des bornes parce que c'est des gens qui se demandent où on va placer la machine, est-ce qu'elle est solide, combien elle pèse, etc. Et d'ailleurs, ils ont un usage qui est assez amusant. Vous avez dit Space Invaders, Pac-Man tout à l'heure. En fait, dans les années 70, on dit le Space Invaders, le Pac-Man. Il y a cet article défini qui est là pour dire l'objet et pour être sans cesse sur cette question de la matérialité.
Et Quentin, comment on est passé du fait de jouer devant tout le monde, avec tout le monde dans un bar ou dans une salle, à sa console de jeu tout seul chez soi ?
Oh, ça, c'est des processus qui sont assez longs. On va dire qu'une des premières étapes, c'est Atari, précisément. En 1977, Atari, elle est rachetée par Warner. Elle a une assise financière qui lui permet de se lancer dans la console de jeu à cartouche interchangeable. Et elle a aussi réglé un vilain problème de brevet qui a été mal déposé. Elle peut désormais avoir un peu les mains libres par rapport à ça. Et elle va décider d'exploiter son catalogue de succès de l'arcade dans un premier temps. Ce que Nintendo va faire également au Japon en 83 avec la sortie de la Famicom, qu'on a connu sous le nom de NES en France, d'abord exploiter le catalogue. Et puis, comme ça a du succès, ces machines, chez Atari comme chez Nintendo, on va dépêcher des ingénieurs pour faire des jeux qui soient propres à la console de jeux vidéo. Vous avez joué à Super Mario Bros, probablement, en 1985, qui est un jeu exclusif aux consoles domestiques. Le personnage de Mario existe depuis Donkey Kong, mais les ingénieurs vont se dire, on va trouver une formule de jeu qui est plus longue, qui peut se faire dans le temps, qui peut se faire dans la découverte, et à ce moment-là, ça transforme aussi et on arrive tout doucement à la question des consoles de jeux qui commencent à s'imposer, d'abord avec les Américains dans les années 70 et les Japonais dans les années 80.
Est-ce que ce qui change aussi, c'est qu'on passe à des jeux qui ont une histoire, donc c'est-à-dire qu'on passe vraiment des niveaux, alors que vraiment le jeu d'arcade était, vous l'avez dit, un jeu qui est censé se finir.
C'est tout à fait ça. Il y a la possibilité, puisque les expériences de jeu vont être prolongées dans le cadre du jeu vidéo domestique, de développer des univers. On a en plus les évolutions techniques qui vont permettre d'avoir des graphismes qui sont beaucoup plus évocateurs de lieux. Du côté de la micro-informatique, par exemple, on a des jeux très bavards et littéraires qu'on appelle les jeux d'aventure textuelle, où on dialogue comme ça avec un programme pour avancer dans un donjon, pour avancer dans un vaisseau spatial. Ces formes-là, elles naissent aussi des supports sur lesquels elles sont jouées.
En 1972, il regrettait de ne pas avoir l'âge légal pour aller voir Gorge Profonde en salle. Depuis, il l'a regardé si souvent que, ma foi, les draps s'en souviennent.
Absolument.
C'est pour ça que j'ai demandé à Thomas Croisière de nous raconter 1972 au cinéma.
En 1972, le cinéma est violence, voire même ultra-violence dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Une satire sociale posant la question, je cite son réalisateur, de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont de nouvelles armes dangereuses pour un gouvernement totalitaire qui chercherait à imposer un vaste contrôle sur ses citoyens et les transformerait en à peine plus que des robots. Et j'ai envie de lui répondre... peut-être. Malgré leur interdiction aux moins de 18 ans, les méfaits d'Alex Delarge et ses droogies dominèrent notre box-office avec plus de 7,5 millions d'entrées. Mais 1972, c'est aussi la violence du parrain de Francis Ford Coppola, synthétisée en une phrase par Marlon Brando.
« Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. »
Deuxième plus grande réplique de l'histoire du cinéma selon l'American Film Institute. Et si vous voulez connaître la première, il vous faudra attendre l'émission de Zoom Zoom Back consacrée à 1939. En 72 déboule aussi sur les écrans l'inspecteur Harry de Don Siegel ou en VO Dirty Harry, surnommé le charognard à cause des affaires pourries dont il s'occupe. Harry Callahan portera aussi une des plus belles punchlines du cinéma à écouter en Clint Eastwood dans le texte.
Go ahead. Make my day.
Ou en français, vas-y, fais-moi plaisir, qui n'était pas la première traduction que proposa l'adaptateur Max Picopé. Il avait pensé au sexuellement beaucoup plus connoté, vas-y, fais-moi reluire. Et celui qui, en 72, se la fit reluire, c'est Herbert Coward dans la traumatisante scène de viol du Délivrance de John Borman.
Plus fort.
À l'époque, on ne balançait pas son porc, on le sodomisait. Mais ce qui, en 1972, est sans doute le plus violent pour les cinéphiles, c'est de retrouver deux films des Charlots dans le top 5 du box-office français, dont aucun n'est signé Charlie Chaplin. Car si les Anglo-Saxons ont un Charlot, nous, Français, sommes fiers d'en compter quatre. Gérard, Phil, Jean et Jean-Guy. Les fous du stade de Claude Zidi, futur réalisateur des Soudoués et des Ripoux, époux rassemble près de 6 millions de spectateurs avides de suivre les aventures de quatre joyeux trublions qui font souffler un vent de folie sur les Jeux Olympiques. Tandis que la même année, les Charlots font l'Espagne de Jean Giraud, réalisateur de la série des gendarmes et de la soupe aux choux, ont réuni plus de 4 millions impatients de suivre les aventures de quatre joyeux trublions qui font souffler un vent de folie sur l'Espagne. Dans les années 70, les Charlots reviennent aux origines du cinéma en accordant plus d'importance aux situations qu'aux scénarios. Leur sens du burlesque en mode Pat Def et Balek fit qu'ils rassemblèrent plus d'un milliard de spectateurs dans le monde, soit quasiment un milliard de plus que l'ensemble de l'œuvre d'Éric Rohmer. Et dans ce monde de brutes, une femme, Romy Schneider, qui dans la lettre qui conclut César et Rosalie, une dramédie romantique de Claude Sauté autour d'un triangle amoureux, nous rappelle toute la violence d'une rupture amoureuse.
David, César sera toujours César et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir.
Vive le triolisme et...
Vive le cinéma
de 1972.
Merci beaucoup Thomas Croisière. Alexis Blanchet, est-ce que il y a des bornes d'arcade, des jeux d'arcade qui ont été inspirés, déclinés de films?
Oui, l'adaptation de films de cinéma en jeu vidéo, ça commence en 1975 avec Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer.
Il y avait une borne d'arcade, Les Dents de la Mer.
Alors, c'était pas tout à fait une borne officielle. C'était une borne que Atari avait fait faire, qui s'appelle Shark Jaws. Oh. Et quand vous approchez de la borne, vous avez un énorme Jaws, le titre original du film, avec un tout petit shark qui est placé au-dessus du J. Et il se trouve qu'Atari a souhaité surfer sur le succès du film qui s'est prolongé pendant tout l'été 75 et a sorti sa borne en septembre 75 avec des flyers professionnels qui disaient « Tout ce qui intéresse les requins intéresse votre public, donc Shark Jaws est vraiment une borne pour vous. » C'est la première adaptation non officielle. Il faut attendre 1979 avec le Star Trek de Robert Wise pour avoir des premières bornes qui sont adaptées de films. C'est un phénomène très important dans les années 80, 90, 2000 qui s'est complètement cassé la gueule depuis 20 ans.
Vendredi oblige, on retrouve Charles Nouveau qui nous a rejoint. Charles Nouveau, j'imagine que, comme moi, vous avez été à l'adolescence un habitué du centre La Tête dans les Nuages, caché dans le petit passage à côté de Manor, rue du Rhône, à Genève. Dans quelle borne d'arcade avez-vous le plus dilapidé votre argent de poche?
Aujourd'hui, je vais vous parler de celle vraiment que j'avais de... La borne de prédilection, c'était Time Crisis. On dirait... ça aurait pu être le titre de ma chronique de la semaine dernière sur la montre volée à John Lennon. Mais non, c'est beaucoup plus abordable financièrement.
Et alors, tu y étais au centre, La Tête dans les Nuages aussi ou pas?
Bien sûr, pour acheter les cartes Yu-Gi-Oh! Aussi.
Évidemment. Attends, on sait qu'on a dû se croiser. Et tout de suite, on écoute Bill Withers sur Inter.
Until you use me up.
till you use me up.
Sent beaucoup plus branché jeu d'arcade que cicatrice à l'arcade, mais peut-être va-t-il nous surprendre. Charles Nouveau, c'est à vous.
Eh bien non, je me suis plus souvent battu sur Street Fighter que dans la vie, Mathieu Noël. Comme beaucoup, j'ai voulu être Ryu, j'ai été un peu amoureux de Chun-Li, et en prime, ma mère, qui est espagnole, s'appelle Blanca, pour de vrai, mais elle n'envoie des décharges électriques que lorsque quelqu'un confond Ser et Estar. Mon père, lui, rien à voir, il s'appelle Bison. Oui, j'ai été hypnotisé par la promesse lumineuse et quasi épileptique des jeux d'arcade, Street Fighter, Soul Calibur ou Tekken, à l'époque où parfois, pour jouer aux jeux vidéo, il fallait sortir de chez toi, souvent même faire la queue. Impensable aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, regarder des gens jouer aux jeux vidéo, c'est du divertissement. À l'époque, c'était une contrainte. T'attendais ton tour en espérant que les autres perdent jusqu'à ce que toi aussi, tout le monde veuille te voir échouer. Il y a une métaphore à faire avec les chroniques de cette émission ou la classe politique française. Et tu finissais aussi par échouer parce que t'as beau avoir regardé les autres, tu n'as pas appris des erreurs de ceux qui sont passés avant toi, une analyse qui s'applique également à certaines de tes anciennes relations toxiques. Pour jouer, il fallait aller gratter une pièce à tes parents comme un toxicomane.
Non papa, je ne suis pas en descente de dopamine, j'essaye de défendre l'honneur de notre arbre généalogique face à des néerlandais écarlates qui viennent de, je crois, nous traiter de baltringues. Aujourd'hui, j'ai plus le même rapport aux pièces, hein, on s'en sert beaucoup moins qu'avant, à part pour le voiturier du Coste, me glissait Cyril la carrière. Et avec le temps, les jeux d'arcade, c'est devenu un peu vintage, un peu niche, un peu chic aussi. Ils en foutent même dans les coins des boîtes de nuit. Mmh. Et attention, ça peut transformer ma soirée. À la base, j'étais juste venu m'ambiancer, mais apparemment, il y a Zangief qui cherche la merde. Le problème, c'est que j'ai jamais de pièces. Où sont nos parents quand on a besoin d'eux? Pas en boîte, a priori. Blanca, elle s'est pété la hanche. Elle va ni zouker, ni taper sur personne pendant un moment. Parce que c'est souvent des jeux violents, il faut le dire. C'est ça qui était kiffant. Le jeu sur lequel je pétais un câble n'échappe pas à la règle. Time Crisis, qui n'est pas un jeu sur la cinquantaine, mais un jeu avec des pistolets que t'empoignais et avec lesquels tu tirais sur l'écran, comme j'ai envie de faire aujourd'hui quand le Barça joue sans Lamine Yamal. En plus, il y avait deux flingues, donc tu pouvais jouer à deux et tester une amitié en tentant ensemble de sauver la fille du président en descendant 800 mecs à coups de bastos, en fervent petit défenseur du second amendement de la Constitution américaine qu'on a tous été en jouant aux jeux vidéo. J'étais bouillant. D'ailleurs, la seule fois où j'ai été au Club Med, il y avait une borne d'arcade Time Crisis, surprise, pendant une semaine. J'ai pas touché au tir à l'arc. Et alors, tu tirais au pistolet, mais le bruit qu'entendent le plus les gens autour de toi, c'était le clac-clac de la pédale que t'avais au pied, sur laquelle t'appuyais tout le temps pour te planquer et recharger. C'était tellement ancré dans ma mémoire musculaire que j'ai dû m'y reprendre deux fois avant de réussir mon permis de conduire. J'avais le muscle le long du tibia complètement hypertrophié. Ma jambe droite, elle ressemblait au bras gauche de Raphaël Nadal. Aujourd'hui, ma jambe, elle ressemble plus au bras gauche de Mathieu Noël, ce qui est inquiétant pour d'autres raisons. Peut-être parce que je passe trop de temps devant les jeux vidéo sans pédale et sans public en plus. Je vais y réfléchir un peu à la machine à café. Mathieu, est-ce que vous auriez pas une pièce par
hasard ? Non, mais Quentin, qui a toujours du cash sur lui, peut vous dépanner. Okay. Merci Charles Nouveau. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et sur scène en spectacle les samedis à la Nouvelle Scène à Paris. Et il a vraiment... Voilà, Quentin, il ne faut pas le prendre. Tout de suite, il peut vous
dépanner. Des pièces de 10 francs.
C'est fou, un voyage dans le temps.
Merci Alexis Blanchet de nous avoir fait revivre les débuts des jeux d'arcade en France. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un des livres les plus lourds de l'histoire de l'imprimerie, Une histoire du jeu vidéo en France 1960-1991, Des labos aux chambres d'ado. C'est disponible aux éditions Pix & Love. Merci à tous les amis, Manon, Quentin, Charles, Thomas. Merci aussi à Florence Gimalac, Cyrine Benyounès, Pierre Courade, Valentin Gelsomino, Romain Bonifaci et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Loïc Frapsos. Lundi, retour au présent, un mois après l'élection de Trump, on zoomera sur l'Amérique qui vient avec un témoin de choix, l'écrivain Douglas Kennedy, qui sera avec nous. D'ici là, bon week-end, à l'écoute d'Inter. Zoom, zoom, zen.